Ce programme est un partenariat entre le Studio Tamani et le programme d'engagement civique financé par l'USAID. Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halid Mouni.
Chienne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Les attaques se multiplient, les morts également, des écoles sont incendiées, l'armée est en repli, jugée stratégique par la hiérarchie militaire. Où est-ce que ça va par rapport à la situation sécuritaire? Le thème du Grand Dialogue avec deux experts de la des questions sécuritaires, en la personne de André Bourgeot, chercheur au CNRS de Paris, et Dr Ali Tunkara, professeur à l'université de Bamako. Je suis Mouhamadou Touré, vous suivez le Grand Dialogue sur 75 radios et 3 télévisions en live également sur Facebook. Bonsoir aux auditeurs, aux téléspectateurs et à nos invités.
Le Grand Dialogue.
André Bourgeot, la question aujourd'hui par rapport à la situation sécuritaire au Mali, où est-ce que ça va?
J'aurais tendance à dire que ça va mal, même très mal, puisque la situation n'a cessé de s'aggraver déjà depuis des mois. Mais là, je crois que ça atteint quand même un pic extrêmement grave et extrêmement important avec ce qui s'est passé récemment à Indelimane. Je considère que c'est d'une gravité extrême. Je ne sais pas si les autorités politiques maliennes sont conscientes de cette gravité, mais ce n'est pas uniquement que dans le domaine sécuritaire. J'ai l'impression que c'est pratiquement dans tous les domaines. Donc, pour utiliser un peu une métaphore, j'ai l'impression que le pays est au bord du gouffre.
Et quelle est l'ampleur de la situation, docteur Ali Tunkara?
Je crois que l'ampleur, comme ça a été rappelé, elle est quand même inquiétante. Quand on regarde aujourd'hui les régions dites nord à celles du centre du pays naturellement, de 2013 à aujourd'hui, si il y a lieu d'établir un bilan, il est quand même négatif incontestablement, parce que même des localités qui étaient quand même sous le contrôle de l'État central aujourd'hui se voient clairement sous contrôle des groupes radicaux violents ou sous contrôle des groupes d'autodéfense qu'on pourrait qualifier de milices selon des localités. Donc je pense que au-delà de tout cela, quand même, quand on questionne un peu l'élite politique, on se rend compte que est-ce qu'on n'est pas toujours dans les dénis? Parce que pour qui connaît aujourd'hui les dénis conflictuels au nord et au centre du pays, naturellement, et voir comment les gens se comportent à Bamako avec des festivités, ça témoigne à combien, au-delà de la compassion, au-delà de la rhétorique, que l'enjeu n'est vraiment pas plus au sérieux. Je ne peux pas comprendre qu'une cinquantaine de militaires tombent sous le coup de groupes radicaux violents. Et au même moment, la hiérarchie militaire, elle est quand même moins impliquée, pour ne pas aller avec le dos de la cuillère. Et de la même manière également, quand on regarde le comportement auquel un nombre important de populations font l'objet également dans nos centres urbains qui sont à l'abri de ces attaques meurtrières. Clairement, la lecture, elle est non seulement du tableau, elle est non seulement sobre, mais dans le même temps, cette lecture questionne à combien l'homme malien serait aussi distant de cette question de sécurité du moment où lui-même ou ses proches ne sont pas forcément touchés.
Quand on voit le degré de gravité de la situation, comme vous l'avez souligné, est-ce qu'aujourd'hui on doit se poser la question par rapport à la prise de conscience par rapport à cette question des autorités, ou est-ce qu'elles sont tout simplement dépassées par la situation?
Si elles sont dépassées par la situation, c'est quand même une preuve d'irresponsabilité, parce que quand même, il y a eu des éléments qui ont alerté les autorités politiques et les militaires maliennes déjà depuis plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années. Si on prend l'exemple de la prolifération des groupes armés salafistes djihadistes, ça a commencé par le Septentrion il y a déjà quelques années, et ça n'a cessé de s'aggraver en permanence sur l'ensemble du territoire national d'une part, et d'autre part aussi sur les pays voisins. Donc il y a eu quand même des preuves matérielles, concrètes, qui signalaient qu'il faut quand même intervenir d'une manière autre que celle-ci. Donc ça repose le problème des stratégies militaires. Est-ce qu'elles sont adaptées aux circonstances, ou bien est-ce qu'elles sont... Si elles ne sont pas adaptées aux circonstances, là aussi c'est grave. Ça veut dire qu'elles n'ont pas pris conscience des réalités. Il semblerait que, y compris dans l'armée française, que certains généraux, dont j'ai oublié le nom, remis en cause la stratégie développée par Barkhane. Quand on voit ce qui s'est passé, moi je vais être très concret. Vous avez grosso modo le nombre d'hommes en uniforme avec Barkhane, avec la MINUSMA, avec les FAMA. Grosso modo, c'est entre 15 et 20 000 personnes. Avec quand même un armement extrêmement sophistiqué. Les drones, etc. En face, sur la toile, ils disent qu'il y a entre 1 500 et 2 000 djihadistes armés. Expliquez-moi comment, avec autant de moyens techniques et avec autant de lois, on ne réussit pas pour éradiquer, mais simplement enrayer. Depuis l'intervention de l'opération Serval, qui était un succès ponctuel, je dis bien ponctuel, ça n'a cessé de proliférer. Donc je me dis, mais il y a quelque chose quand même qui ne va pas. Je suppose que les drones sont en mesure de détecter les camps d'entraînement faits par les groupes armés, disons l'islam armé, pour ne pas... S'ils sont pas en mesure de le détecter, c'est quand même grave. S'ils sont en mesure de le détecter et qu'ils n'interviennent pas sur les camps d'entraînement des groupes armés salafistes djihadistes, je me pose des questions.
Doit-on s'interroger sur la franchise de la collaboration entre ces différentes forces armées sur place ?
Manifestement, il y a un problème de coordination, mais ça va au-delà de la coordination, parce que de ce qui s'est passé au Mali central, dans le Massina, il y a quelques mois, on a dédouané Barkhane en disant que les objectifs de Barkhane, c'était sur le septentrion. Donc moi, ça m'a un petit peu alerté, et je suis retourné sur Internet pour voir quels étaient les objectifs de Barkhane. Barkhane a pour objectif de lutter contre les groupes terroristes, pas sectorialisés, sur l'ensemble du territoire malien. Donc on vient de pas nous dire que non, ils ne pouvaient pas être là parce qu'ils avaient pour objectif d'être uniquement dans le septentrion. Donc il y a quelque chose quand même qui me fait mal.
Et une des questions qui suscite autant de réactions aujourd'hui, il s'agit de ce repli de l'armée malienne au niveau de ses positions concernant Andera Boukane et l'Abezanka, un repli jugé stratégique par la hiérarchie militaire. Qu'en pensez-vous, docteur Ali Tunkara?
Alors le repli, déjà, il faut quand même l'inscrire à la suite, l'adresse que le président de la République a adressé à la nation au lendemain des attaques des Nguilimen. Donc je pense que c'est une réplique quand même qui dénote de nouveau combien les communautés rurales notamment ont le sentiment d'être abandonnées par l'État. On a beau expliquer les raisons qui ont conduit à ces répliques, clairement, ce qu'on ne dit pas à juste titre, lorsque des armées régulières se retirent d'une localité donnée, naturellement, on va assister à l'émergence de groupes d'autodéfense. Un vide est déjà là, le vide, donc les populations vont s'efforcer à le combler en créant des groupes d'autodéfense, notamment qui vont avoir aussi comme sous-bassement ou confondement le référentiel communautaire, malheureusement. Mais dans le même temps, un tel repli, au-delà du sentiment d'être abandonné par l'État central, va même permettre également aux groupes radicaux violents d'avoir un ancrage local. Parce que vous n'êtes pas sans savoir quand même que les différentes localités aujourd'hui qui font l'objet à ces replis dits stratégiques de la part de nos forces de défense et de sécurité, ce sont des localités quand même qui sont sérieusement convoitées par le groupe radicaux violent. On ne le dit pas suffisamment. Boulkessi, c'était quand même le camp le mieux outillé en termes de ressources humaines, même matérielles, parce que pour qui connaît un peu l'orthodoxie de l'armée malienne, les Beurous sont quand même étiquetés d'être des hommes aguerris, d'être des hommes tout à fait prêts au combat. Mais quand ceux-ci sont attaqués d'une telle manière, naturellement, il y a eu un sentiment, incontestablement, si vous voulez, de découragement auprès des autres corps. Il y a eu même un sentiment, il y a eu même des scissions. Hein. C'est vrai que la hiérarchie militaire l'a nié, mais il y a eu des dissensions. Certains éléments avaient carrément quitté les camps pour regagner les centres urbains tels que Menaka et Ansongo. Donc c'est pour vous dire que un tel repli, naturellement, va aggraver davantage les tensions intercommunautaires, mais dans le même temps, surtout, ce qui est inquiétant, la question de la confiance aujourd'hui entre les communautés rurales et l'État central, cette confiance, elle est quand même perdue. Un tel repli ne fera qu'aggraver davantage cette confiance en l'État. Donc comment allez-vous faire comprendre les communautés en proie à l'insécurité que les forces de défense et de sécurité, qui sont quand même les acteurs préparés à cet effet, afin de contrer la montée du radicalisme ou de ces menaces sécuritaires, que ceux-ci ne sont plus à mesure, à partir du local, de faire face aux groupes radicaux violents. Donc ils seront désormais dans les centres urbains afin de déclencher, de s'attaquer, parce qu'on parle quand même de nouveaux concepts qui va consister désormais à s'attaquer aux groupes radicaux violents. Mais je pense que c'est de la poudre aux yeux. Pour mémoire, on sait quand même qu'en 2012, la même expression a été employée. Lequel repli jusqu'ici, quand même, les anciennes positions n'ont pas été occupées par nos forces de défense et de sécurité. Rien ne peut nous faire dire aujourd'hui que ce repli récent va être différent du repli de 2012. Je pense que un État central a quand même l'obligation d'avoir des moyens susceptibles non seulement de sécuriser les communautés, mais dans le même temps de faire en sorte que ces communautés, leurs biens également, se sentent en assurance. Si l'État est absent en matière de l'offre sécuritaire, naturellement, des stratégies endogènes vont émerger. Et lesquelles stratégies pourront même rendre le retour probable l'État de nouveau impossible. Ce qui se passe aujourd'hui à Kidal.
Et on va y revenir concernant ce retour de l'État. André Bourgeot, pensez-vous, comme Dr Ali Tunkara, que ce repli jugé stratégique par la hiérarchie militaire va aggraver la situation?
Moi, je répondrai à propos de l'existence des groupes d'autodéfense. Le groupe d'autodéfense va dans le sens d'une généralisation de recours aux armes pour résoudre des problèmes d'ordre politique. Donc c'est certainement pas une bonne chose. Donc moi j'observe que l'armement circule d'une manière générale sur l'ensemble du territoire. Ça a provoqué quoi? Ça provoque des tensions et des affrontements au niveau local entre des groupes locaux. Si on prend l'exemple des Dogons et puis des Peuls, qui ont été instrumentalisés politiquement en disant que c'est des affrontements interethniques. Ça n'a rien d'interethnique, c'est pas l'ensemble des Peuls qui se dressent sur l'ensemble des Dogons. C'est des problèmes d'ordre locaux qui sont là et qui sont instrumentalisés politiquement. Ces groupes-là interviennent dans quel contexte? Dans un contexte où l'État n'est pas là. Il y avait autrefois une zone de non-droit qui caractérisait le septentrion. Maintenant, la zone de non-droit, elle est aussi dans le Mali central. Donc, ces zones de non-droit avec la criminalité organisée, elles prolifèrent pratiquement partout. C'est la raison pour laquelle je dis que c'est une situation extrêmement, extrêmement grave. Pourquoi le recours aux armes? Les gens constatent qu'avec les armes, je peux m'enrichir. Je peux faire des quantités de choses et puis ça me permet d'instaurer un pouvoir. Donc la facilité, c'est les armes. Comment on obtient les armes? Par le trafic, par la criminalité organisée. Donc c'est quelque chose qui a tendance à véroler tout le corps social, et pas simplement le corps social local et régional, mais sur l'ensemble du pays. Comment prendre en considération, que faire face à cette situation-là? Par quel bout prendre pour essayer d'enrayer cette prolifération généralisée? C'est un problème énorme. Moi, je vois, quand je discute avec certains collègues et puis avec des Maliens, ils sont complètement désorientés parce que le problème, il est tellement grave et tellement profond, on ne sait plus tellement par quel bout le prendre. Et ça, c'est grave. C'est pour ça que je dis, on est au bord du gouffre. Il ne faudrait pas beaucoup pour tomber dans le gouffre. Si on tombe dans le gouffre, la profondeur du gouffre est énorme. Et le Mali ne pourra pas se relever s'il tombe dans le gouffre.
Et aujourd'hui, vous avez parlé de circulation des armes. Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a même un contrôle par rapport à cette question?
Un contrôle qui sera exercé par qui? Vous faites référence à contrôle, donc je vous pose la question. Ce serait organisé par qui le contrôle? Justement, c'est qu'il n'y a pas de contrôle. Et s'il y a des armes, il y a un pendant. Qu'est-ce qui me permet d'avoir des armes? C'est aussi le trafic de drogue. Donc le trafic de drogue actuellement dans le contexte actuel, ça veut dire que le discours sur la paix ne peut pas se réaliser parce qu'il y a des forces politiques et économiques qui n'ont pas intérêt à la paix. Et ces forces économiques et politiques qui n'ont pas intérêt à la paix, ce sont ceux qui manipulent la drogue. Je pense qu'il y a des relations de type structurel et organique entre trafic de drogue et trafic d'armes. Peut-être pas organique, mais en tout cas, il y a des liens qui sont intimement liés. La drogue, tout le monde sait, vous avez à Gao un quartier qui s'appelle quartier cocaïne. Donc si on fait référence à quartier cocaïne avec de belles villas, etc., ça veut dire que c'est là-dedans. Si c'est là-dedans, ça implique aussi les forces politiques et militaires locales, y compris l'islam armé. L'islam armé n'est pas étrangère au trafic de drogue, même si c'est pas directement, c'est au niveau du contrôle de l'acheminement des drogues illicites. Donc, vous voyez, ça, on ne peut pas parler de paix sans s'attaquer au trafic de drogue et à la corruption. Je crois que trafic de drogue et corruption sont intimement liés.
D'accord. Les autorités maliennes peuvent-elles ne pas se rendre compte des risques que vous êtes en train de soulever par rapport à ce repli?
Je pense qu'il y a quand même une prise de conscience incontestablement quand on regarde les différentes réponses apportées par l'État central de 2012 à aujourd'hui. Ce sont des réponses qui restent tout à fait non satisfaisantes au regard de l'ampleur de la situation. Mais je pense qu'en toute objectivité, l'élite politique malienne aujourd'hui, elle est quand même aux abois, elle est vraiment à ses limites, à telle enseigne que elle se confie même à des forces dont leur contrôle l'échapperait entièrement.
Est-elle dépassée, Lili?
Clairement, parce que quand vous regardez aujourd'hui les différents mandats qui sont confiés à la force Barkhane française, celui également de la force onusienne de l'AMINUSMA, naturellement, par ces résolutions onusiennes, ce qu'on dit pas à juste titre aux populations, ces résolutions font l'état d'accueil de ces forces un état sous tutelle. Une résolution onusienne est supranationale. Donc de ce fait, les besoins sécuritaires qui sont clairement exprimés par les communautés en proie à l'insécurité sont loin d'être en phase aux réponses apportées tant par l'armée malienne que celles apportées par les forces étrangères. Donc je pense que, en toute objectivité aujourd'hui, le président Ibrahim Boubacar Keïta et son équipe gouvernementale éprouvent toutes les difficultés à émerger de nouvelles solutions susceptibles justement d'enrayer cette nébuleuse terroriste. Donc c'est pour vous dire que même si il y a quand même des tentatives qui ont eu lieu du Premier ministre Soumaïla Boué Maïga en passant par l'actuel M. Cissé, mais lesquelles tentatives ont du mal à avoir un ancrage, parce que je peux comprendre que l'armée malienne n'ait pas de drones afin de voir les différents camps d'entraînement de ces groupes radicaux violents, mais si cette armée avait le soutien populaire en termes de renseignement humain, naturellement, elle allait gagner davantage sur les groupes radicaux violents. Mais ce sont ces anciennes pratiques non orthodoxes qui continuent justement à rendre ces rapports de confiance entre forces de défense et populations tout à fait compliqués, voire complexes. Donc, ces anciens rapports de ponction, le fait que les communautés voient en nos forces des acteurs qui ne font que les spolier, qui ne font que les racketter, naturellement, ça fait que ces mêmes communautés aujourd'hui en proie à l'insécurité préférerait traiter ou se confier à Yada Gali, à Hamadoun Koufa, à Madame Diko, qui est passé par l'État central à travers ses acteurs qui sont les forces de défense et l'administration judiciaire. Donc je pense que il est extrêmement important qu'entre Maliens, qu'on questionne aujourd'hui la question de l'orthodoxie chez nos forces de défense et de sécurité, mais dans le même temps, on doit quand même se poser des questions. Comment peut-on comprendre des kilomètres et des kilomètres, des centaines de motos peuvent quitter d'un point A à un point B pour s'attaquer à un camp malien sans que les 10 camps n'aient un minimum de renseignements de la part du local? Donc cela, ça pose quand même clairement la question de cette absence cruelle de confiance entre les État central à travers ces acteurs qui sont les FAMA et les communautés en proie à l'insécurité. Ce n'est pas pour rien que dans beaucoup de localités, telles qu'à Indilimène, quand vous regardez un peu les différentes aires et culturelles de cet environnement, ce sont quand même des localités qui ont toujours été réticentes à ce qu'elles soient sous l'emprise de l'État central. Comment, dans ce genre de contexte, voulez-vous que les communautés soient tout à fait coopératives vis-à-vis des FAMA?
Des FAMA, justement, le service de renseignement malien ou les services de renseignement malien fonctionnent-ils selon vous?
Il m'est difficile de répondre à votre question, parce que je n'ai pas une vue de l'intérieur du fonctionnement.
Mais quand on analyse l'évolution de la situation, est-ce que l'impact est visible?
Je ne peux avoir qu'un point de vue de l'extérieur et simplement une observation. Si effectivement ces services fonctionnaient bien, il n'y aurait peut-être pas cette situation que le collègue vient de décrire. Donc j'aurais tendance à dire que probablement que ça ne fonctionne pas très bien. Mais effectivement, si vous comparez la situation des relations entre l'armée nationale au Burkina Faso et puis les populations locales, c'est très significatif. Les populations locales ont encore confiance dans leur armée. Et récemment, on a bien vu qu'il y avait des liens qui se tissaient entre les populations locales et puis l'armée. Actuellement, compte tenu aussi de certaines exactions qui ont été commises par l'armée, je vois mal comment on peut faire confiance globalement parlant. C'est ça. Cela dit, je trouve qu'il y a un exemple très très intéressant qui s'est fait dans la région de Mopti, qui a été initié par un jeune commerçant de 36 ans, qui est croyant mais qui n'est pas particulièrement religieux, et qui a créé une association appelée Association des prédicateurs pour l'unité et la paix. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Il avait un champ de 5 hectares. Il a dit, ce champ de 5 hectares, je le donne aux jeunes du village qui vont le cultiver et qui vont l'entretenir. C'est autant de jeunes qui ne vont pas rallier Koufa. Vous voyez, ces petits exemples-là, ça peut servir aussi de modèle. Ça peut paraître quelque chose de dérisoire. C'est pas quelque chose de dérisoire, parce que c'est quand même l'expression aussi d'une prise de conscience. Si ce genre d'exemple pouvait se proliférer en fonction des réalités locales, ce serait quelque chose d'extrêmement important. Ça veut dire que le peuple manière, enfin, les villageois seraient partie prenante. Mais à cet égard, comment voulez-vous que le peuple malien se sente appliqué lorsque vous avez un accord de paix dont il a été complètement écarté, dont il ne se sent pas partie prenante de l'histoire de son pays? Et ce qui est grave, parce que le contenu des accords de paix implique le destin du peuple malien. Bon, je ne sais pas si on va discuter sur le contenu de ça, mais c'est ça. Donc c'est dramatique, parce qu'ils ont le sentiment, non pas d'avoir été frustrés, mais d'avoir été mis complètement à l'écart. Ça repose le problème du contenu et des modalités d'instauration du dialogue national inclusif. C'est la même chose. Ça a été quand même un peu boudé. Je ne vois pas en quoi il est inclusif et je ne vois pas en quoi il est national.
Et aujourd'hui, certains pensent que ce repli stratégique des militaires maliens, des positions avancées, pourrait être perçu par les groupes terroristes comme une victoire.
Pardon ?
Que ce repli, jugé stratégique par la hiérarchie militaire, pourrait être perçu par les groupes terroristes comme une victoire.
Bon, ça c'est leur affaire de percevoir comme victoire. C'est de bonne guerre. Je crois que dans le cadre des campagnes de propagande, effectivement, l'ennemi il a intérêt à dire « Mais voilà, on a marqué des points, la preuve c'est qu'il y a un repli stratégique ». Je ne sais pas si véritablement sur le fond ils en sont convaincus.
Mais est-ce une victoire pour eux?
Non, incontestablement, quand des forces quand même loyales cèdent des points aussi stratégiques, hein, il ne faut pas oublier Boulkessi, on est un peu frontière Mali-Burkina, Indilimène, on est de là-bas, on a facilement accès au territoire nigérien. Donc clairement, lorsque des forces loyales abandonnent des positions pour des raisons liées à la menace terroriste, on peut ne pas être d'accord à Koulouba, mais la victoire elle est quand même certaine pour ces groupes radicaux violents. Mais je pense que pour rendre cette victoire, si il y en a, c'est de rendre quand même ce repli vraiment passager. Mais du moment où l'autre repli de 2012 continue quand même à se prolonger, je ne sais pas en quoi ces replis seraient différents de celui de 2012. Mais fondamentalement, reconnaissons quand même qu'aujourd'hui, les régions dites nord du Mali, les forces de défense et de sécurité n'étaient pas aussi quand même attaquées par les groupes radicaux violents. Et soudainement, ce sont des localités aujourd'hui où les forces de défense quand même sont sérieusement menacées. Ça pousse à avancer un certain nombre d'hypothèses. Est-ce qui serait derrière ces attaques? C'est important. Quand on prend comme Indilimène, c'est vrai, on ne va pas dire que, parce que là où les camps se trouvent, ce sont des peaux dites noires, comme les populations de Nord elles-mêmes les appelleraient, qui sont des Songoï majoritairement, mais dès qu'on avance un peu à l'intérieur du pays, vers l'intérieur de la localité, j'allais dire, naturellement, ce sont quand même des peaux dites rouges dans ces localités en proie à l'insécurité. Je ne dirais pas que ce sont ces villages voisins qui seraient à l'origine, mais en tout cas, ils sont quand même complicités avec le groupe radicaux violent, incontestablement. Et moi, j'ai la ferme conviction qu'on ne peut mettre un terme à ces attaques, si elles sont sporadiques, contre nos flamands et les populations civiles. On oublie souvent de le rappeler que c'est seulement si tous les groupes armés, sans exception, y compris la CEMA, ne soient désarmés. Je pense qu'il est extrêmement important que le Mali et ses partenaires...
Justement, la question qui se pose encore, c'est quelle est l'utilité de cette collaboration aussi entre les forces armées maliennes et ces groupes armés signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation?
Je pense qu'il y a toujours un sentiment de méfiance entre ces différentes forces en présence. Quand vous allez dans ces différentes localités aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'au-delà de la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation, en dépit de la présence des forces étrangères, les différents acteurs qui sont à la charge de l'offre sécuritaire, certes, on nous parle de patrouilles conjointes, des actions communes qui seraient conduites ça et là, mais quand vous creusez à fond ce qu'on entend par patrouille conjointe, par opération commune, vous allez vous rendre compte que non seulement les stratégies sont définies à l'absence de l'autre, mais dans le même temps, l'autre ne sait même pas quels sont les itinéraires qui seraient empruntés ça et là. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, que ce soit les FAMA, la force Barkhane française, la force onisienne, ce sont des acteurs où chacun évoluerait indépendamment des autres. Donc ce qui fait que il n'y a vraiment pas une coordination effective. Il n'y a pas de patrouille proprement dite mixte qui serait le quotidien de ces différentes forces en présence.
Et donc quelle est l'utilité de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali sur le terrain?
Bonne question. Je répondrai aussi pour compléter l'intervention de mon collègue. Est-ce qu'il y a une collaboration entre les FAMA et les mouvements armés du HCUA? Non. Bien sûr que non, il n'y en a pas, puisque jusqu'à présent, l'administration civile et militaire malienne n'a pas le droit d'aller dans la mer des Iforas. Et quand vous avez des représentants de l'État à un haut niveau, que ce soit Premier ministre ou au niveau du chef de l'État, on leur donne l'autorisation sous condition que... Donc comment voulez-vous que ça fonctionne? Ça, c'est reconnu par qui? Par tout le monde, la communauté internationale, le médiateur, les autorités politiques et sécuritaires maliennes, les Français disent quoi? Absolument rien. Il n'y a jamais eu tentative de sanction contre la non-application sur la violation du contenu des accords de paix. Loin s'en faut. Quand vous avez eu, il y a, je crois, quelques mois, 4, 5 ou 6 mois, où la CMA a décidé d'appliquer la charia sur l'ensemble de la mer des Iforas et de créer une carte d'identité pour les Maliens, qui a dit quelque chose? Personne. À ma connaissance, les autorités maliennes n'ont strictement rien dit. L'Algérie n'a rien dit. La communauté internationale n'a rien dit. Comment voulez-vous que ça fonctionne? Comment voulez-vous qu'il y ait quelque chose qui dise, effectivement, on va soutenir, alors que tous ces gens-là font pratiquement ce qu'ils veulent, d'une part. D'autre part, si vous analysez d'une manière un peu historique, dans la profondeur, l'attitude des groupes armés salafistes djihadistes, ils interviennent quand ils veulent et là où ils veulent. Donc il y a quelque chose quand même qui ne va pas. Ce qui me paraît intéressant dans la situation actuelle, c'est aussi l'armement de ces groupes armés, qui est un armement maintenant extrêmement sophistiqué, et que les attentats sont de plus en plus rapprochés, et la cible dominante, c'est les FAMA. Ce n'est pas par hasard que ce soit les FAMA, parce que c'est à partir de là aussi qu'ils peuvent faire des actions de propagande sur les FAMA pour essayer de faire en sorte que les FAMA se détachent et se rallient aux Moudjahidine, aux combattants. Et c'est ça aussi qu'il y a derrière. Face à ce genre de stratégie, qu'est-ce qu'il y a? Les stratégies en face, quelles qu'elles soient, c'est quand même un échec. Est-ce qu'il ne faut pas repenser des stratégies? Moi, j'observe que d'un côté, pardon, la brousse est occupée, grosso modo, par l'islam armé, pour parler large. Les militaires internationaux, étrangers, et femmes, ils sont où? Dans les villes. Comment voulez-vous? Donc, est-ce qu'il ne serait pas beaucoup plus simple, comme le faisait Napoléon, d'utiliser les armes de l'ennemi, au lieu d'avoir des bataillons de 100 personnes ou 150 personnes, etc., d'avoir des petits groupes de sections qui sont en brousse? Il faut pénétrer la brousse pour les éradiquer. Ils sont localisables, on peut les localiser. Si on peut les localiser, les militaires doivent trouver les moyens, justement, de s'approcher pour éviter qu'ils viennent dans les centres urbains. Ça ne se fait pas, donc c'est la porte ouverte à tout ce que l'on veut.
Alors, l'accord pour la paix a-t-il changé quelque chose de façon positive, ou est-ce que ça a servi de cadre de protection pour tous ces groupes armés?
Bon, l'accord de la paix, les derniers signataires, c'était ce qui était venu, la coordination des mouvements de l'Azawa. Je crois qu'ils ont dû signer le 15 juin 2015. Si j'observe la situation de 2015 à 2019, j'ai pas du tout l'impression que l'accord de paix a débouché sur la paix. Elle n'a débouché que sur l'aggravation des situations, et notamment le recours aux armes. Donc c'est un accord de paix qui n'a pas d'impact. S'il n'a pas d'impact, il faut se poser la question, pourquoi il n'a pas d'impact? Donc je reprends ce que je disais tout à l'heure, s'il n'a pas d'impact, c'est encore une fois, le peuple malien était complètement tenu à l'écart, il n'a jamais participé à son destin. Un accord comme ça qui est signé et qui n'est pas discuté à l'Assemblée nationale, c'est quand même grave.
Et donc qu'est-ce qu'on ne dit pas aux Maliens lambda par rapport à cette crise sécuritaire au Mali?
Ce qu'on ne dit pas aux Maliens lambda, y compris derrière l'opposition, parce que c'est vrai que si vous écoutez avec une attention particulière toutes les rhétoriques de la part de l'opposition, en aucun cas cette opposition ne remet en cause la présence des militaires étrangers. Or, on sait pertinemment que aujourd'hui, toutes les difficultés liées à l'application effective de l'accord pour la paix et la réconciliation résideraient dans le fait que, ce que disait M. Bourgeot, le fait que cet accord, il est quand même signé, et tout en mettant les logiques du terroir de côté. Autrement dit, les vrais acteurs, moi je l'ai dit partout, ceux qui sont vraiment à l'origine de cette aggravation de la situation sécuritaire sont avant tout quand même des groupes radicaux violents, même si des indépendantistes sont à l'origine du conflit. Mais comment allez-vous conclure un accord avec des acteurs que je qualifierais même subsidiaires, étant donné qu'il y a des acteurs clés qui sont Yaragali, qui sont Abu Sahraoui, Ahmad Nkoufa et d'autres Katiba. L'erreur dans la non-application, dans la non-effectivité de cet accord pour la paix, résulte dans le fait que ces vrais acteurs ont été mis de côté. Et justement,
faut-il négocier avec eux?
Incontestablement. Et quand vous regardez aujourd'hui toutes les propagandes faites par ces groupes radicaux violents, ils s'appliquent comme sur l'islam littéral. Vous faites allusion à des textes qu'on pourrait qualifier de littéralistes, des auteurs comme Ibn Taymiyyah, d'autres penseurs qui sont très respectés dans le monde musulman sunnite. Ce sont des auteurs également qui ont tout à fait condamné l'action violente au nom même des référencés musulmans. Moi, je ne vois pas en quoi aujourd'hui les groupes ou les anciens combattants du MLNA qui sont aujourd'hui sous la coupole CEMA ont tué, ont violé, sont attaqués au symbole de l'État. Et les groupes radicaux violents ont connu les mêmes exactions. Je ne vois pas en quoi, sur la table de négociation, les mêmes acteurs ne soient pas acceptés de la même manière. Je pense que on va me dire que les groupes radicaux violents sont tout à fait pluriels, on ne sait même pas combien ils sont-ils. On va me dire qu'ils vont parler de l'application de la charia, ils vont parler du départ immédiat des forces étrangères. Mais tout cela, ça peut se discuter. Et il y en a qui parlaient de la partition du pays, aujourd'hui ils sont sur la table de négociation. Il y en a qui sont attaqués au sein de l'État, ils ont quand même accepté d'intégrer le corps social. Donc c'est pour vous dire que l'application de la charia, on ne peut convaincre un acteur qui tient à cela qu'à travers des textes sacrés. On a aujourd'hui des acteurs au Mali qui sont capables de le déchiffrer et convaincre ceci effectivement du fait que l'hypothèse qu'ils soutiennent n'est pas une hypothèse soutenable au nom même de l'argumentaire religieux. Et de la même manière également, et il est extrêmement important aujourd'hui, entre Maliens, qu'on se dise une chose. Voilà les puissances étrangères, certes, il faut quand même le rappeler. La force Barkhane, elle est utile, il ne faut pas le nier. N'eût été l'intervention française, n'eût été aussi la venue de l'aménagement, naturellement, ces débats n'allaient même pas eu lieu. Donc c'est pour vous dire que la force Barkhane, la force onusienne, joue un rôle tout à fait crucial dans le maintien du Mali d'aujourd'hui. Mais en dépit de ce rôle important joué par ces deux forces étrangères, il est quand même incontestable aujourd'hui que l'on déclenche le processus de dialogue avec le groupe radicaux violent. Les États-Unis avaient-ils le même langage en Afghanistan, en Irak aujourd'hui, au Qatar effectivement, des pourparlers sont engagés entre les États-Unis et les talibans. Pourquoi pas au Mali, même si la France n'est pas pour un tel dialogue.
Quel est votre avis par rapport à cette négociation avec les djihadistes?
Deux choses. La première chose, je tiens quand même à souligner que peut-on signer des accords de paix avec des groupes qui restent armés? Il y a quand même une contradiction fondamentale entre le non-désarmement et puis la signature. Il y a une contradiction énorme qui conduit à la situation dans laquelle on est. Maintenant, pour répondre à votre question, moi j'inverserai la question. Est-ce que c'est l'islam armé est susceptible de dialoguer? Ils sont très clairs. El-Baghdadi, il dit très clairement, on ne discute pas avec les mécréants. Si vous prenez le contenu des prêches de Koufa, Koufa, il va plus loin. Il utilise même le terme « bâtard » pour caractériser les musulmans de sunnites et pacifistes. Donc ça va quand même très loin. Donc ça veut dire, faire des déclarations d'intention pour dire « il faut négocier », oui. Avec qui, au préalable, il faut leur demander s'ils sont d'accord pour négocier, pour même pas négocier, pour rentrer en contact avec eux. À partir de ce moment-là, s'ils disent oui, on est ouvert au dialogue, c'est quelque chose qui va un peu plus loin. Maintenant, sur le contenu, est-ce qu'ils vont faire des concessions sur le Khalifa et sur l'application de la charia? C'est un problème de fond. Est-ce qu'ils vont être d'accord à dire « Ah ouais, d'accord, on va maintenir une nation républicaine, la notion de république, on est d'accord avec ». Je doute fort que ça puisse déboucher sur ça. Donc c'est vraiment deux positions antagonistes. Alors, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas essayer d'instaurer des contacts. Dialogue, c'est autre chose. Hein. C'est vraiment quelque chose de très institutionnalisé, de très préparé. Il faut œuvrer dans ce sens. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Si c'est dans le cadre d'un rapport de force politique qui est celui qui existe actuellement, ils vont dire non, c'est nous qui marquons des points sur le plan militaire et sur le plan armé. Et donc, c'est nos objectifs qui doivent être privilégiés. Vous vous rendez compte de la difficulté de la situation pour essayer de dialoguer? Déclaration d'intention, oui, mais passer dans à l'acte, c'est autre chose. Bon, il y a eu des tentatives qui ont été faites avec ça, dans ce sens-là, entre l'imam Diko et puis Iyad Agrali. Ça n'a pas débouché sur quelque chose d'important. Parce que Iyad Agrali aussi, il joue son pouvoir. Il a un pouvoir quand même énorme sur la Dar des Ifoas, y compris sur la HCUA. Le HCUA, El Rabas, tout ça, c'est quand même des relais à Ansar Eddine et plus particulièrement au Jnim. très difficile.
Très difficile.
Non, je pense qu'on peut, je comprends heureusement, ces inquiétudes sont tout à fait légitimes, hein. Mais je pense que l'arme la plus redoutable pour ramener ces acteurs qui se battent aujourd'hui au nom du référentiel musulman, il reste quand même les textes sacrés, notamment musulmans. Un Yaragali qui va poser son veto pour ne pas renoncer à l'application de la charia, ou un Hamadoun Koufa, par les mêmes textes sacrés, on va les faire croire qu'au nom même de l'islam, voilà, un État islam n'a jamais existé dans l'histoire de l'islam. Ça, on peut le prouver par les textes. De la même manière également, reconnaissons que dans l'islam, il y a ce qu'on appelle ce qui est immuable, ça, le fait de prier, de jeûner, ça on ne peut pas toucher. Mais toutes les affaires sociales sont comme sujet aux discussions. Et je pense que, j'ai la ferme conviction, il y a de la graine à moudre. On a des ulémas qui sont très proches de ces acteurs du point de vue idéologique, qui peuvent le convaincre au nom de référence musulmane. Je ne vois pas en quoi peut-on convaincre un Hamadoun Koufa à renoncer à l'usage de la violence au nom des droits humains? Il s'en moque pas mal. Je ne vois pas en quoi peut-on convaincre un Jafar Malam Diko au nom d'une force quelconque étrangère de renoncer à la violence. Mais je pense que quand on puise dans les mêmes textes, le dialogue devient intéressant. C'est exactement ce que l'Algérie a fait, ce que la Mauritanie a fait, qui sont comme des pays voisins, et qui avaient les mêmes difficultés avec ces groupes radicaux violents, qui brandissaient partout l'application stricte des textes sacrés. Mais j'ai la ferme conviction, quand on parcourt aujourd'hui des textes d'Ibn Taymiyyah qui sont brandis par ces acteurs, on va se rendre compte, attention, ça ne tient pas. Ibn Taymiyyah lui-même dit que le recours à la violence ne peut être légitime au nom de l'islam que sauf si l'on veut sauf si on est dans un rapport justement d'autodéfense. Je pense que là on peut déconstruire la violence. De la même manière également, vous avez une tonne aujourd'hui de textes sacrés qui viennent des savants musulmans très respectés par les mounes sunnites qui peuvent justement déclencher un tel dialogue. Je pense que la matière elle est là, mais sauf que ce qui manquerait cruellement, c'est le courage politique de faire entorse quand même à ces forces étrangères. Moi, je ne pense pas que la Barkhane ait l'intention de s'éterniser au Mali. De la même manière également, les forces onusiennes veulent quitter. Elles sont là, toutes ces deux forces, pour stopper la montée des menaces terroristes. Du moment où l'extrémisme violent arrive à son terme, je ne vois pas en quoi ces forces auraient du mal à retourner chez elles. Donc, vous voyez que les dialogues pourraient même aider ces différentes forces étrangères de retourner rapidement, plutôt que prévu. Voilà.
Je voulais réagir sur la question.
Oui, je voulais dire la chose suivante, c'est que je ne pense pas qu'il existe un islam. Il existe des islams.
Ouais.
C'est ça le problème. Pour répondre à la question de mon collègue, je suis désolé. Koufa fait référence à des textes sacrés. Il légitime le recours aux armes sur le comportement du prophète. Le prophète a pris des armes. Pourquoi ? Pas pour attaquer, pour se défendre. Et il avance les arguments, nous sommes attaqués partout, les musulmans sont attaqués partout, par les Américains, par tout ce que vous voulez. Donc nous, on se défend, on imite la pratique du prophète. Qu'est-ce que vous allez faire face à ça ? Quand il fait une description des pratiques anti-islamiques reconnues par l'islam, le comportement des marabouts qui crachent, les crachats, etc., ça a des échos. Parce qu'effectivement, il renvoie aussi à des interprétations de textes sacrés. Il n'y a pas un texte sacré qui n'est pas l'objet de plusieurs interprétations. C'est quand même quelque chose. Vous savez, quand vous traduisez les prêches de Koufa, vous êtes quand même quelque part ébranlé, parce qu'il a des propos extrêmement simples qui renvoient à des réalités concrètes, avec un autre vocabulaire que le sien. Il dénonce l'impérialisme occidental. Bien sûr qu'il n'utilise pas le terme impérialisme, mais il vous donne des exemples comme quoi, eh ben, on est sous y compris les marabouts qui sont sous la tutelle. Il dénonce les pratiques des marabouts, il les accuse même de corruption. La réalité du villageois, il voit bien que la corruption, elle est là, y compris de la part des marabouts. Donc ça a un écho. Il est porteur d'un nouvel ordre. C'est ça qui est important. Et il s'adresse à qui ? À ceux, aux pauvres, à ceux qui sont victimes. Donc quelque part, il les écoute. Moi, quand je fais traduire les textes devant plusieurs personnes, les gens me disent, mais quand il parle, on l'écoute. Donc si on l'écoute, c'est quelque part, il touche. C'est ça le gros problème.
La solution serait donc l'offensive.
Je vois pas comment on peut contraindre des forces comme ça s'il n'y a pas un rapport de force, ouais, cette fois-ci militaire, parce que ils utilisent des armes qui seraient susceptibles de faire en sorte de les contraindre à parler. et par la suite à dialoguer. Je ne vois pas comment on peut le faire. C'est tellement deux conceptions complètement antagonistes, ou alors le Mali ne veut plus être une république laïque et ne veut plus être une république. Ils ne vont pas céder sur le Khalifa. Ils vont pas... Vous savez, le problème aussi avec l'islam, c'est l'islam est une conception sociale. Au niveau des unions matrimoniales, au niveau de la transmission de l'héritage, et tout, c'est quand même une religion qui est quelque chose de total. Donc eux vont s'appuyer là-dessus. Ils vont avoir recours justement à cette dimension-là pour dire il faut choisir. Ou vous choisissez un islam qui est le nôtre et vous mettez de côté la République.
Et si l'armée devrait partir, l'armée malienne, sur l'offensive, a-t-elle ses moyens ?
Non, je ne pense pas qu'on puisse dire actuellement qu'elle en a les moyens. Mais est-ce que ça se pose dans ces termes ? Comment redorer l'armée malienne ? C'est ça le problème de fond. Avec quels moyens ? Il semblerait quand même qu'il y a eu des moyens, y compris par des hélicoptères et des avions qui sont restés au sol.
Et justement, c'est dans ce contexte que le front...
Je termine là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, si au lieu de rester au sol, les hélicoptères auraient pu être utilisés, les conséquences auraient été différentes.
Et c'est dans ce contexte que le Front pour la sauvegarde de la démocratie, FSD, exige un audit sur les financements de la loi de programmation militaire et une enquête sur l'état de la disponibilité des équipements militaires. Est-ce que cela va changer quelque chose ?
Je pense que si le travail est bien accompli, naturellement, ça pourrait avoir des répercussions sur les achats à venir. Hein. Les achats déjà effectués, je pense que là, les fonds détournés ont été investis dans des villas somptueuses à Bamako ou même dans les capitales occidentales.
Mais justement, M. Tunkara, est-ce possible aujourd'hui de gérer tous ces problèmes, de régler tous ces problèmes ?
C'est là qu'on a intérêt parfois aussi de ne pas continuer à n'acquiser que la France ou l'administration. Ce sont quand même des pratiques qui sont évidentes. Lesquelles pratiques font que, naturellement, le moral de nos forces est tout à fait sapé. Comment peut-on se battre au nom d'une réplique ? Au même moment, les décideurs ils vivent dans des conditions aussi décentes que, dans ces différents camps, on a du mal à accéder, même à des bornes de fontaines, pour accéder à l'eau potable. Vous voyez, quand même, c'est paradoxal. De la même manière également, comment allons-nous être aussi dans cet état-nation? Et dans le même temps, l'accord pour la paix et la réconciliation encourage la singularité. Voilà le paradoxe. Je pense que rien n'est fait aujourd'hui pour aider l'homme malien à avoir cet ancrage état-nation. Donc, ce sont les singularités qui sont encouragées, ça et là. Mais une chose est sûre, j'ai la ferme conviction qu'au regard des différentes stratégies aujourd'hui déployées par la force Barkhane, par la force onisienne, si l'on ne revient pas sur ces différentes stratégies, difficilement on peut arriver au bout de l'insécurité. Voilà des stratégies qui ont été réfléchies par des résolutions onisiennes, tout en répondant à des logiques qui ne sont pas forcément celles du Mali. Je pense que l'élite politique malienne devait avoir le courage, notamment le président de la République, lors de son adresse à la nation, la manière dont il a eu le courage de questionner l'effectivité de l'accord, il devait avoir le même courage également de questionner aujourd'hui la question d'utilité de ces différentes stratégies mises en œuvre. Ce qu'on ne dit pas très souvent, M. André avait fait allusion, la question de section au niveau des armées et des régiments. Vous voyez aussi que c'est sur certains blocages que beaucoup méconnaîtraient. Par exemple, quand on prend les Sénégalais qui sont au Mali, ils ne peuvent pas se battre dans une section parce que les différents pays aussi ont de clauses avec l'État du Mali dans le cadre de la mission onusienne. Donc, il y a tellement de blocages qui font que les attentes légitimes sécuritaires qu'ont les populations maliennes vis-à-vis de ces forces ne peuvent être difficilement comblées par le simple fait que ce sont des attentes qui ne collent pas à la nature même des mandats qu'ont ces différentes forces aujourd'hui.
D'accord. Et si les bonnes stratégies ne sont pas trouvées, quels sont les risques pour les 6 prochains mois ?
Ah. En tout cas, moi je suis extrêmement inquiet. Hein. Si je compare la situation, la dernière fois que j'étais au Mali, ça devait être en février-mars 2019. Mars-avril-mai, en l'espace de 5 ou 6 mois, ça s'est aggravé à une allure incroyable. Au point où certaines forces politiques et certaines personnes demandent la démission du président de la République. Ça aussi, c'est quand même quelque chose de très révélateur. Bon, je suis dit, le président Ibrahim Boubacar Keïta sur le contenu des accords de paix qu'il faut le modifier. Ça intervient 4 ans après la signature des accords de paix. Jusqu'à présent, il aurait fallu tout de suite. Ça repose le problème des conditions d'élaboration du contenu des accords de paix, qui sont plus que douteux. Mais il fallait intervenir très rapidement. Il était quand même investi de près de 78% des lecteurs qui ont voté pour lui. Donc, de mon point de vue, il ne sera pas content ce que je vais dire, mais moi, j'ai envie aussi de dire ce que je pense. Il fallait qu'il intervienne d'une manière beaucoup plus ferme dès le début des choses, ne pas se laisser un petit peu promener par la communauté dite internationale. Et effectivement, on arrive dans une situation où quasiment le pays est sous tutelle.
D'accord.
C'est grave.
Et en quelques secondes, êtes-vous aussi inquiet, docteur Ali Tunkara?
L'inquiétude est légitime, mais je pense qu'il ne faut pas quand même perdre l'espoir à tout bout de champ. On a vu les murs de Berlin qui s'est effondré. On a vu l'éclatement de l'Union soviétique. Mais je pense qu'avec des hommes courageux, des femmes et des hommes courageux, naturellement, les Mali peuvent se retrouver. Mais je pense que pour que le Mali se retrouve aujourd'hui, l'exemplarité du sommet est indispensable. Sans laquelle exemplarité, naturellement, les acteurs en présence seraient traversés par le découragement, par des sentiments de repli, stratégie de quel repli, pourraient avoir difficilement le courage de se redéployer sur les positions anciennement quittées.
Merci, docteur Ali Tunkara, professeur à l'Université de Bamako, et André Bourgeot, chercheur au CNRS de Paris, tous spécialistes de questions sécuritaires. À la régie vidéo et audio, Gagné Kanté et Nouhoum Diré, je suis Mouhamadou Touré. S'informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre. Merci, fidèles auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba. Et Dewani Ouamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri.
Halou Mangi.
Chenne Beri. Sigi Kafoba.